Le journal de France Inter, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le Var se réveille après une nuit dantesque de la pluie et des inondations dans le secteur de Sainte-Maxime. Il y a au moins un disparu. Des poubelles payantes, voilà qui nous pend au nez pour réduire nos déchets. L'État va inciter les communes à surtaxer nos ordures. En attendant le remaniement, que se passe-t-il dans les ministères? Pas grand-chose, nous dira Yael Gauz. Et puis à 8h20, Nicolas, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la réforme des retraites en cours.
Avec son grand architecte Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Il est au micro d'Inter, donc dans 20 minutes, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
À la une également, l'Irlande instaure un prix minimum de l'alcool et des vignettes pour mettre en garde contre le cancer. C'est une première. La Tunisie devient le premier pays arabe à voter une loi contre le racisme. L'inquiétude des ports normands à l'idée d'un Brexit sans accord. Et puis des bestioles qui tuent ou qui soignent au Palais de la Découverte à Paris.
France Inter.
Des pluies torrentielles en Méditerranée, elles ont fait 10 morts à Majorque, aux Baléares, et 24 heures plus tard, les voilà dans le sud de la France, plus particulièrement sur le Var. Des recherches reprennent ce matin pour retrouver une personne emportée par la rivière à Sainte-Maxime. Précision du préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, joint il y a quelques minutes par Fanny Bouvard.
Le Var a été particulièrement impacté par les pluies autour des communes de Sainte-Maxime, Roquebrune-sur-Argence et de la ville de Fréjus. À la limite de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argent, 5 voitures ont été emportées vers la mer par la crue de la Garonnette. Les recherches entreprises en mer n'ont pas pour l'instant permis de localiser les 5 véhicules en question. L'un au moins des véhicules qui avaient les phares allumés était occupé. Il est donc certain qu'il y aura un bilan humain qu'on ne peut exactement évaluer à cette heure.
Les 2 campings de Fréjus sont prêts à être évacués si besoin est. Les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont également en vigilance orange. Et puis aux États-Unis, l'ouragan Michael est passé sur la Floride avec des vents à 250 km/h, un mort pour l'instant. Des scènes très impressionnantes, des voitures projetées sur plusieurs mètres. L'ouragan poursuit sa course vers la Géorgie avec des vents moins forts.
Et préparez-vous à compter vos poubelles.
Et oui, c'est dans le budget 2019, l'État va encourager financièrement les communes qui appliquent le principe pollueur-payeur. C'est simple, plus vous sortez vos poubelles, plus vous payez. 4 communes le font déjà en Ile-de-France, ça fait 3 ans à Moigny-sur-École dans l'Essonne. Sur le papier, c'est efficace. Sur les trottoirs, il faut voir, Jette Péchira.
Dans la cour de la mairie, Pascal Simoneau, à l'origine du projet, attrape la poubelle grise.
Et à l'intérieur, vous avez une puce. Elle est détectée à chaque fois que le bac est accroché au cul du camion.
Donc, calculez combien de fois on a sorti sa poubelle.
Exactement.
Au-delà de 18 ramassages par an, chaque habitant paye un surplus, quelques euros par poubelle en fonction de sa taille. Depuis l'instauration de ce système, le président de la communauté de communes assure avoir vu les progrès.
Il y a eu une espèce de réaction dans les esprits et on a baissé de 30% le tonnage des ordures ménagères et dès la première année en plus.
Qui dit moins de déchets à ramasser dit moins de frais et donc finalement une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, moins 1 à 2% par an. Pourtant derrière son portail, Laurence, une habitante du village, grince des dents.
Ça craint parce que depuis qu'ils ont installé ça, il y a des décharges un peu partout sur le bord des routes. Donc je pense que les déchets, ils sont toujours là. Je suis pas sûre que ça réduise les déchets, quoi.
Les gens, ils font pas le tri. Vous faites pas le tri. Vous faites pas le compost.
Si, on essaye, mais malgré ça, c'est difficile de se maintenir à 18 poubelles. Ça fait une poubelle toutes les 3 semaines. C'est pas énorme, quoi.
Pour rentrer dans les clous, au-delà du tri, certains habitants de Moigny-sur-École se sont mis au compost ou achètent leurs produits en vrac, sans emballage, d'autres moyens de réduire leurs déchets.
Là, le tri sélectif est en cours au gouvernement. Qui va sortir? Qui va rentrer? On ne saura rien avant vendredi soir au plus tôt, avant le retour d'Emmanuel Macron d'Arménie. Et en attendant, Yael Gauz, il y a de l'inertie dans l'air dans les ministères.
Comment voulez-vous agir quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait? On est en apesanteur, soupire un chef de cabinet. Il y a 2 jours, dans le doute, Bruno Le Maire a préféré annuler son déplacement en Indonésie. Pas de ministre pour représenter la France lors de 2 réunions stratégiques du FMI et de la Banque mondiale. mondiale. Mardi après-midi, c'est l'aide au handicap qui a fait les frais du flottement général. Report du comité interministériel prévu sur le sujet à Matignon. La semaine dernière, mercredi, c'est carrément un conseil de défense qui est passé à la trappe. Mais c'est incontestablement le ministère de l'Intérieur qui est le plus touché. Jacqueline Gourault, la numéro 2, se retrouve propulsée première flic de France quand Édouard Philippe ne peut pas le faire. Demain, elle doit faire une croix sur un déplacement en Gironde. Impossible de laisser une chaise vide au Luxembourg où se réunissent les ministres européens de l'Intérieur. Globalement, l'administration tourne, mais pour les cabinets, cela vire au supplice, faire ou ne pas faire ses cartons. Dans beaucoup de ministères, depuis lundi, on ne publie même plus les agendas officiels.
Et le remaniement pourrait encore tarder jusqu'en début de semaine prochaine.
Il est 8h05 et c'est une première en Europe des mises en garde contre le cancer sur les bouteilles d'alcool.
Le principe est voté alors que des médecins en France interpellent la ministre de la Santé. Il faut taxer davantage l'alcool. Il faut qu'il participe au financement du fonds de lutte contre les addictions. Seul le tabac y contribue pour l'instant, alors que l'alcool est la deuxième cause de cancer en France et la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Coup de gueule du docteur Catherine Hill, épidémiologiste.
C'est pas un scoop de dire que l'alcool est une cause de cancer. L'alcool est une cause très importante de cancer, surtout en France où on boit beaucoup. S'il s'agit de donner des informations correctes aux gens, il faut leur dire combien on boit trop en France et qu'il faut absolument que les gens boivent moins et pas se cantonner aux femmes enceintes et à l'alcoolisation des jeunes. On ne sait pas en France parce que les lobbies de l'alcool sont d'une puissance incroyable, donc on ne fait rien en France sur l'alcool, quoi qu'on dise. Il y a écrit « avec modération », personne ne sait ce que ça veut dire, on n'a jamais défini la modération. La modération, c'est de ne pas boire plus de 10 verres par semaine. Et ce sont des petits verres qu'on vous sert dans un café. C'est 10 grammes d'alcool pur par verre. La consommation en ce moment en France, si on répartit tout ce qui est bu sur toute la population de 15 ans et plus, c'est 2,6 verres par jour. Donc on est très très loin du compte. On attribue à l'alcool 28 000 cancers en 2015, 16 000 chez les hommes et 12 000 chez les femmes. Et la première cause, c'est le cancer du sein. Un verre par jour augmente le risque de 10%.
Docteur Catherine Hill avec Véronique Julia en Irlande. Un prix minimum de l'alcool a aussi été adopté, ce que demandent les alcoologues français depuis longtemps. L'Irlande qui est en train de faire capoter les négociations sur le Brexit. Il faut se préparer à l'échec, a prévenu Michel Barnier hier, une semaine avant un sommet européen crucial à Bruxelles. La perspective inquiète beaucoup les ports normands, Ouistreham, Le Havre, Dieppe, Rouen, Cherbourg, dans le même bateau face à une sortie du Royaume-Uni sans accord. Il va falloir sérieusement penser à l'anticiper, Maxime Debs.
Si demain il n'y a pas d'accord, si demain le deal capote, on fait quoi? Au milieu du flou, dans le brouillard le plus total, seule certitude pour le président de la région Normandie, Hervé Morin.
S'il n'y a pas d'accord, le lendemain matin, le Royaume-Uni est un pays tiers, comme la Chine, comme le Ghana, comme tous les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, avec lesquels il n'y a pas d'accord.
Plus d'accord liant le Royaume-Uni à l'Europe, cela veut dire des contrôles douaniers rétablis dans les ports français, on se prépare au pire. Thierry Grumiau de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers.
De toute façon, un allongement des formalités va créer des embouteillages, des queues, c'est une évidence.
Et ces camions, retenus plus longtemps par les contrôles, il faudra bien les garer quelque part, prévoir des parkings, des installations nouvelles, sans parler des effectifs et autres moyens pour effectuer ces contrôles. Sur toutes ces questions, Hervé Morin en appelle à l'État.
Ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros par port, et lancer des travaux de ce genre, quand on ne sait pas si au bout du compte on va avoir besoin de le faire, c'est un vrai sujet. J'ai besoin, moi, d'être en situation de pouvoir appuyer sur le bouton quand on se dira, grosso modo, c'est cuit, il n'y aura pas d'accord.
Les élus réclament en cela des mesures concrètes à effet immédiat face à une menace qualifiée de majeure pour l'avenir de nos ports.
En Italie, encore un pont endommagé par la pluie. En Sardaigne, une portion de l'ouvrage s'est effondrée 2 mois après l'écroulement du pont de Gênes. Et attention, prévient l'autorité anticorruption italienne, la mafia pourrait s'infiltrer dans la reconstruction à Gênes. Pour aller plus vite, la réglementation va être allégée et de nombreuses entreprises du bâtiment sont contrôlées par la mafia. Et voilà qui est inédit dans le monde arabe. La Tunisie va criminaliser la discrimination raciale. 3 ans de prison prévue par une loi qui vient d'être votée. Jusqu'ici, c'était l'impunité totale. La société civile tunisienne célèbre un exploit historique, Maureen Mercier.
Être noir, tunisien ou subsaharien, c'est risquer d'entendre dans les transports publics ceci.
Calouche,
nègre,
cala,
singe.
Voilà, ce sont des termes qui reviennent au quotidien.
Plus grave encore, ces dernières années, des agressions ont ébranlé le pays tout entier. MacArthur Deogan Nyopacho préside l'association des étudiants africains en Tunisie. À chaque fois, son association portait plainte, mais en vain.
Il y a eu plusieurs agressions, notamment le 24 décembre 2016, où il y a eu l'agression de 4 étudiants congolais. Il y a eu également une étudiante rwandaise qui a été bousculée par son bailleur et finalement qui était enceinte et qui a perdu son bébé. On a enregistré le cas aussi d'une étudiante congolaise qui s'est fait casser même le bras gauche. On a porté une plainte mais qui n'aboutit finalement à rien, tout simplement parce qu'il y avait cette absence de la loi qui puisse condamner ces actes-là.
La donne a changé, le défi désormais, faire en sorte que cette loi soit appliquée.
Si les gens ne bougent pas, on va les obliger à bouger, voilà.
Premier pays arabo-musulman à abolir l'esclavage en 1846, la Tunisie entend rester à l'avant-garde avec cette nouvelle avancée de taille. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Un viol en maternelle, est-ce possible ? Une main courante a été déposée à Paris qui concerne des enfants de 4 ans, des petits garçons qui auraient plusieurs fois agressé une petite fille dans la cour de récréation, selon Le Parisien aujourd'hui en France. Une enquête est ouverte. Combien le prix du mètre carré à Paris ? Même sous terre, c'est très cher. 15 000 euros les 2 mètres carrés. Alors les Parisiens ont de plus en plus de mal à se faire enterrer dans la capitale. Le manque de place fait grimper les prix. La saturation va augmenter encore avec l'augmentation attendue de la mortalité. La mairie de Paris a lancé un groupe de travail hier, Mathilde Dehimi.
Au bout du téléphone de Michel Kavnik, le président de l'Association française de l'information funéraire, des familles endeuillées en quête de renseignements et souvent des Parisiens désemparés qui ne peuvent enterrer leurs proches dans l'un des 14 cimetières intramuros.
Depuis près de 20 ans, nous demandons à ce qu'il y ait une véritable politique de mise à disposition de concessions à Paris intramuros par l'intermédiaire de concessions autres que les seules concessions perpétuelles. Maintes familles vont se tourner vers une crémation. C'est une solution qui répond aussi, malheureusement, au manque de place actuelle à Paris.
Sur les 156 000 concessions intramuros, seuls 171 terrains ont pu être remis à la vente l'an dernier. Des reprises de concessions compliquées, dit Pénélope Comites, adjointe à la mairie de Paris.
Il faut qu'elle ait plus de 30 ans, que la dernière inhumation ait lieu il y a 10 ans, qu'elle soit considérée en état d'abandon. Donc c'est une procédure administrative qui prend 3 ou 4 ans. Nous étudions aussi la possibilité juridique de pouvoir vendre des monuments funéraires qui appartiennent à la ville, mais qu'on ne peut pas détruire pour des raisons patrimoniales. Mais nous avons besoin d'un accord juridique de l'État.
Une concession perpétuelle coûte plus de 15 000 euros en intramuros, moitié moins au cimetière de Bagneux. Plus aucune place n'est vendue avant le décès.
Dans les villes, c'est devenu le transport alternatif à la mode. La trottinette et sa version électrique qui envahit les chaussées et les trottoirs. Et leurs conducteurs passent de plus en plus souvent aux urgences. 5 morts l'an dernier, près de 300 blessés. Pamela Anderson et Yannick Jadot enfermés dans une cage à Paris hier. Un happening pour dénoncer le sort des animaux d'élevage. Relayé aujourd'hui ce happening par une pétition lancée par 130 ONG pour interdire l'élevage en cage dans toute l'Europe à 1 million de signatures, Bruxelles devra se pencher sur le sujet pour libérer les poules, les lapins et les truies, Nina Valette.
99% des truies sont parquées dans des cases métalliques pendant la période de gestation. Cela permet à la femelle de ne pas écraser les porcelets, une méthode qui écœure Léopoldine Charbonneau, directrice de l'ONG CIWF.
Une truie dans une case de gestation, elle peut faire un pas en arrière, un pas en avant. C'est vraiment une immobilisation quasi complète de l'animal, donc avec tous les lots de frustration, de souffrance que ça implique.
Un discours qui agace Paul Offray. Ce Breton est éleveur de porcs et également patron de la Fédération Nationale Porcine. Depuis plus de 30 ans, il travaille au contact de ces animaux, des animaux qu'il refuse de voir souffrir.
Ben non, ils ne souffrent pas. Nous, on est au quotidien avec ces animaux-là, donc ce n'est pas ces gens-là qui vont expliquer mon travail quand même, non ? Franchement. Moi, j'en ai marre d'avoir des leçons de morale par des citadins. Pourquoi on les a mis dans des bâtiments fermés ? C'est d'abord pour maîtriser l'ambiance et surtout éviter les problèmes de maladie. Parce que quand vous parlez d'animaux sur la paille, ce qu'on ne dit pas, c'est que les trois quarts du temps, ils sont sales. Et quand ils sont sales, il faut nettoyer. Vous me dites où trouver les salariés pour le faire.
Et pour la FNSEA, si cette harmonisation des méthodes d'élevage n'est pas européenne, voire mondiale, elle est forcément vouée à l'échec.
Les animaux en cage et ceux qui ne le sont pas, Panorama sur franceinter.fr. www.vivarium.fr.
Et maintenant, des animaux qu'il faut surtout laisser en cage?
Eh oui, en vivarium bien hermétique, de préférence, Nicolas, des serpents, des grenouilles, des mygales, des scolopendres et leur venin exposé vivant au palais de la découverte. Frisson garanti, Sophie Bécherel.
Elles sont minuscules et voyantes, bleues, jaunes, vertes. Les dendrobates sont de petites grenouilles des forêts humides. Leur peau luisante exude un poison violent. Un simple contact avec une blessure peut être fatal. Dans les venins, il peut y avoir de 300 à 500 substances. L'homme ne sait toujours pas les reproduire, mais il sait en tirer parti, souligne Élodie Ducasse, médiatrice au Palais de la Découverte.
On se rend compte que des toxines bien précises issues de certains venins nous permettent en fait d'un peu mieux comprendre comment fonctionne notre corps. En particulier dernièrement avec le mamba noir, son venin, une toxine a été isolée, même plusieurs, et servent de piste pour des antidouleurs type morphine.
D'autres venins peuvent faire coaguler le sang, provoquer un excès de salive ou engendrer la suffocation, des cocktails que les animaux utilisent pour survivre ou se nourrir. L'homme est rarement attaqué, sauf s'il menace. Frisson garanti pourtant, surtout face au serpent le plus dangereux décrit par le responsable de la sécurité des terrariums, François Lemoine.
C'est le mamba parce qu'il a un venin qui est très toxique, mais aussi parce que c'est un serpent qui est très rapide, qui peut avancer en vitesse maximum 23 km/h, ce qui fait grosso modo du 6 mètres seconde. Donc c'est vrai que si vous l'avez enquiquiné et qu'il vous court après, à mon avis, vous êtes mal.
Qu'on se rassure, les terrariums sont garantis haute sécurité pour les visiteurs et pour ces espèces dont, ne l'oublions pas, la plupart sont aujourd'hui menacées.
Et gare au mamba, Nicolas.
Ouais, 26 km/h.
23.
23, ouais. C'est très rapide, voilà. Et ça fait très peur. Exactement. Florence. Merci Florence Paracuelos.